Alors, on pourrait presque dire que ça, c'est une petite deuxième question, oui, par le micro, qui est effectivement comment trouver un espace pour des erreurs, comment accepter, comment vraiment bâtir des espaces pour des erreurs, parce que ce que disait Samuel Bosson, et ce que j'allais dire moi-même, c'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est quand on ne... Quand on refuse absolument de se tromper avec quelque chose, on s'engage dans les, peut-être dans les...
Oui. Si je peux intervenir sur ce que vous dites, du coup ça me permet de rebondir par rapport à quelque chose que vous avez dit, parce qu'il y a le seul modèle théorique qui a été convoqué dans cette journée, c'est celui de Shannon.
Oui,
c'est bon. Ancien. Qui est quand même obsolète. On sait que le principe de la circulation, il est largement dominant.
Ouais, il faut passer à autre chose.
Ouais. Non, on est passé, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est scientifiquement, on est passé à autre chose.
Je crois pas.
Lisez Jeanneré, le modèle de la trivialité, c'est le modèle circulant. Un individu qui produit de la création, qui produit de l'innovation, c'est un être social qui évolue et qui s'adapte en fonction de certaines choses. Exemple hyper concret, je viens de Télécom Paris Tech, hein, j'ai fait 3 ans de postdoc là-bas. Je travaille avec la société Allociné qui veut développer un service qui ne verra pas le jour pour le grand public. Que fait la société Allociné avec un sociologue comme moi pour le développement de son service? Elle me demande de faire des entretiens, de faire des panels groupes et de faire du développement tenant compte de 3 trucs. Je me réfère à Sylvie Lenervielle qui est une chercheuse de l'Université de Valenciennes. Dans l'innovation, il y a ce qui est attendu à incontournable, il y a tout que vous pouvez plus vous en défaire aujourd'hui avec le numérique, parce que les gens, ils savent l'utiliser, ils savent que c'est complètement un moteur de recherche, par exemple. Vous ne pouvez pas concevoir un site internet, c'est un moteur de recherche, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Il y a de l'innovation qui est en train de s'intégrer et que les gens perçoivent comme quelque chose qui relève d'un intérêt de l'innovation. Et ensuite, il y a l'innovation en rupture. C'est-à-dire que vous êtes en train d'arriver, c'est ce qu'on faisait avec le site à l'époque, on est en train d'arriver avec un système qui est en rupture. En 2011, c'est des recommandations par rapport à vos goûts cinématographiques. Vous êtes en rupture avec l'existant et les gens n'ont pas conscience de ce que ça veut dire d'un point de vue social. Voilà. C'est un jeu en fait entre ces 3 niveaux qui. Dans une innovation en rupture totale, ce n'est pas l'innovation parce que vous ne pouvez pas être en interfaçage avec votre audience, avec votre public, avec vos usagers, etc. Parce que vous leur proposez quelque chose dont ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants. Donc. Voilà, c'est ni une question ni une interface, c'est juste une intervention d'ailleurs.
Ouais, c'est un commentaire. Je peux revenir rapidement, pas pour justifier, mais le modèle de Shannon, effectivement, est ancien. Mais le problème, c'est qu'il fonctionne trop souvent. Je ne parle pas en sociologie, je pense notamment à la théorie des acteurs réseau ou autre. Enfin, évidemment qu'on a fait beaucoup de.
Ouais.
Bah voilà, exemple, la sociologie de la production, etc. Quoi, je parle simplement dans l'espace usuel, la manière dont on conçoit le récepteur, la réception, le public, et la manière dont on conçoit en fait l'objet de connaissance avec des modalités de transmission, on est encore. Dans le modèle de Shannon, je dis que c'est un problème. C'est justement précisément ça.
Je ne sais pas qui conçoit les dispositifs, mais les gens qui conçoivent les dispositifs, j'imagine qu'ils écoutent la société, qu'ils font des réunions comme nous, là, aujourd'hui, qui discutent.
Mais je ne dis pas qu'ils sont stupides.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans un système bottom-up,
top-down,
excusez-moi, j'ai complètement l'inverse. C'est des êtres sociaux qui entendent ce qui se passe dans ce... Enfin, je sais pas, hein. Je suis un peu naïf, là, peut-être, et hyper positif. Je vis dans le monde des bisounours.
Est-ce que je peux prendre un exemple, du coup, pour illustrer un peu de manière positive?
Bien sûr, ouais.
Je prends Newstrack, par exemple. Newstrack, je sais pas si vous avez vu ça il y a quelques années, c'était avec le Louvre, encore le Louvre, qui est un acteur important, évidemment. Newstrack, en fait, c'est une petite start-up, d'ailleurs, hein, qui était poussée par le laboratoire, qui est le laboratoire qui est en fait un lieu spécifique à Ré-Sciences, où design et ingénierie. Et le Strex, dans mes souvenirs, c'était en fait la possibilité aux visiteurs de pouvoir... Il y a une sélection d'œuvres qui était mise en place dans le Louvre, au sein du Louvre. Et sur cette sélection-là, sur ce corpus, donc 2 ou 3 salles, en fait, les visiteurs avaient la possibilité à travers une application mobile, non seulement de faire des commentaires, mais notamment de proposer une visite avec leur propre interprétation. Donc ça, c'était quelque chose d'assez fort, parce que non seulement on n'est pas dans une logique d'interprétation et de commentaire, comme on le fait tous, et de prise de parole publique, en disant « voilà ce que je vous propose comme visite », et ça peut être par exemple l'histoire du pied, de la main, ou des histoires triviales, ou très scientifiques. Et moi j'avais suivi ça, j'étais pas dans le projet, mais j'ai suivi ça de près, et on a pu s'apercevoir que 99% des gens, enfin j'ai pas les chiffres exacts, une très grande majorité des visiteurs, redemandaient en fait, et voulaient la visite officielle. Donc dans un schéma en fait de transmission classique, avec un capital de connaissances qui a été élaboré par des experts, donc qui ont mis en place en fait ce type de contenu, de connaissances, et que ce soit transmis et bien labellisé. Ça veut dire qu'en fait, on est quand même dans un mode de transmission, et je ne dis pas que ça vient des musées, mais il y a une attente de la part du public aussi pour avoir ce type d'audio-guide, par exemple. Au Château de Versailles, c'est la même chose. Au Château de Versailles, vous proposez un certain nombre de contenus, par exemple, autoproduits. Le plus grand succès des audio-guides, ça va être les audio-guides qui auront été estampillés au Château de Versailles avec des gens qui ont fabriqué un type de contenu et qui vous expliquent ce que c'est que l'art et le baroque. Donc des modalités en fait de communication assez classiques. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Et je pense que c'est quelque chose qui est encore très présent, me semble-t-il, dans les musées. Après, on peut être d'accord ou pas, mais en tous les cas, c'est un modèle, je trouve, qui est présent. Voilà, bon, je ne sais pas si ça explique.
Ouais, ça complète, mais enfin, je suis peut-être hyper utopiste hein, dans ce que je disais, mais encore une fois, les gens demandent ce qu'ils connaissent. Donc là, dans l'exemple que vous donnez, c'est les gens demandent le truc qu'ils ont vu. À quel moment on peut créer quelque chose que les gens vont se dire « Ah oui, ça, c'est intéressant, je n'ai jamais vu. » Voilà, ça pourrait m'apporter quelque chose, vous voyez. Je pense, en vous écoutant à quelque chose, il y a des gens qui sont en train de faire un modèle de capteur pour prendre les taux de pollution à Paris en ce moment. Le seul modèle qu'on connaît, c'est ArtParif, qui nous donne les infos dans les médias en disant « Attention, vous êtes pollués aujourd'hui, ne sortez pas vos enfants dans les poussettes. » Mais s'est-on déjà posé la question de savoir quel est l'indicateur ou les indicateurs que convoque ArtParif pour faire ces mesures? Aujourd'hui, l'Internet des objets est en train de vouloir répondre à cette question-là en mettant en discussion, en fait, des indicateurs de mesure, et en mesurant peut-être la pollution entre moi, etc. Donc, en tout cas, l'Internet des objets, c'est peut-être une... Je viens de parler de ça, c'est peut-être un élément, en tout cas, pour les musées qui peut s'en parler.
Est-ce que...
Juste parce que vous parliez des parcours finalement proposés par des amateurs, et que finalement les visiteurs vont charger les parcours officiels, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des applications qui sont en train de se créer. Je pense notamment à Ludigo, où en fait, c'est possible de créer un parcours en personnel et de le charger. Je me dis que c'est peut-être là l'avenir, où justement, si ces applications se développent, les gens vont peut-être avoir tendance à dire « Ah, ça, c'est enfin, je l'identifie comme de l'innovation » et peut-être plus les utiliser, en fait. C'est peut-être pas, là, pour le coup... aller trouver l'information chez les institutionnels. Ouais. Et c'était d'ailleurs avec justement les sociétés privées qui ont compris que le visiteur peut être acteur et quels sont les services qu'on peut proposer. Et ça, j'ai l'impression que ça se développe quand même.
Je peux apporter un petit témoignage sur un dispositif qui s'appelle Sonosphère, qu'on a installé notamment à la Gaîté Lyrique, qui est une sorte d'audio guide participatif. On a pu étudier en fait la part de la participation spontanée et de la participation accompagnée. Quand on pose un dispositif comme ça, il y a déjà une barrière à la participation qui est le niveau de contenu qu'on met dans le dispositif. C'est-à-dire, soit le dispositif il est vierge de contenu, auquel cas effectivement le visiteur il peut être un peu désemparé. Sur la nature du dispositif lui-même et ce qu'il propose comme contenu et ce qu'il peut mettre dedans. Donc il y a forcément un contenu initial. Et une fois qu'il y a un contenu initial, la plupart des visiteurs essayent de mettre, de participer au niveau du contenu existant. Donc déjà, ça fait une certaine barrière. Donc d'expérience, la contribution spontanée dans les contextes dans lesquels on est installé est relativement faible. En revanche, le dispositif est très intéressant quand il est utilisé dans le cadre de workshops, en fait, c'est-à-dire avec une médiation, le public qui se balade dans une exposition, par exemple, et avec une médiation sur le dispositif, expliquer comment ça marche, etc. Et donc, il y a un aspect un peu ludique, du dialogue qui peut se faire entre les participants de l'atelier, et du coup, une réappropriation du musée par ce biais-là. Et donc, ce type de dispositif, quand on l'a mis dans des lieux dans lesquels il n'y avait aucune médiation, ça n'a pas trop bien marché. En revanche, quand l'institution s'empare de l'outil pour travailler, comme on a dit tout à l'heure, avec les visiteurs, là, ça commence à être vraiment intéressant.
En sachant quand même que, avec le petit, la petite précision, que Solosphère, ça n'est pas un dispositif qui est destiné à un musée ou à un site en particulier. C'est un dispositif qui a pour. Enfin, je parle sous ton contrôle, mais c'est ce que vous avez fait avec Compost, c'est ça
ouais.
C'est, qui a quand même pour objet de proposer aux gens de saisir des histoires ou des narrations ou des interventions audio. Les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire Solosphère et son propre champ de référence.
Oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Enfin,
dans des contextes donnés, mais.
Effectivement, c'est-à-dire que.
Tu veux dire que c'est pas un outil muséographique par
exemple. Non, c'est pas un outil muséographique au départ, c'est plus un support.
Voilà.
Et donc qui a plusieurs usages potentiels.
Oui.
Et le cadre d'un atelier, effectivement, c'est d'explorer ces usages dans un contexte.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il est normal que ça soit davantage investi dans le cadre du workshop, parce que justement l'objet lui-même est au centre de la raison pour laquelle les gens se retrouvent, quoi.
Oui.
Voilà.
Ouais. C'est un objet en soi.
C'est un objet en soi.
C'est
à mi-chemin entre un dispositif et une œuvre, et c'est quand même un objet qui a sa propre finalité.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on peut, ça vous embête si on revient
je voulais introduire une notion un peu, voilà, pour répondre ainsi à ton commentaire de la notion de design et des designs d'expérience, d'expérience utilisateur. Le public est évidemment très hétérogène, et les contenus aussi sont très hétérogènes selon le type de musée. Et donc, par exemple, j'imagine que, bon, il faut quand même faire une segmentation en termes d'attitude utilisateur du public. Et dans ces archétypes, en fait, il y a des besoins qui sont vraiment différents et des objectifs dans la visite qui sont totalement différents. J'imagine que au Louvre, 90% des personnes qui viennent de loin, ils viennent peut-être pour la seule et première fois de leur vie. Donc, ils nécessitent effectivement une posture top-down. C'est-à-dire, on est là, je viens pour la première fois, je m'imprègne, je veux aller, ça y est, je suis allée au Louvre. La moitié des personnes, peut-être, ils y vont aussi par obligation, parce qu'ils viennent à Paris, ils ont cet objectif-là. D'autres, ils viennent pour absorbe la culture, donc ils ne voudront jamais effectivement l'application qui serait surprends-moi ou donnez-moi un contenu alternatif parce qu'ils sont pas venus pour cet objectif-là. Donc je pense que la question sera toujours la même d'ici à 200 ans. On pourra avoir la version des iPhones, la version 50 000 des iPads. La posture, c'est celle qui est demandée, celle-ci. Par contre, dans d'autres types de musées, probablement, j'imagine, je ne sais pas, parce qu'on est un peu Paris-centrique,
oui.
Mais le musée de Tokyo, plutôt qu'un autre type de musée, je pense peut-être à un musée des arts romains, je ne sais rien, effectivement, on peut imaginer des parcours alternatifs, plusieurs types de parcours en fonction, effectivement, des différents types de publics, à condition que ces publics aient été identifiés, segmentés. Voilà, et les besoins plus ou moins tracés, je pense qu'on ne peut pas avoir les besoins évidemment de tous, mais alors oui, on peut peut-être trouver des manières innovantes d'interagir avec un dispositif contemporain très conceptuel. On parlait de Tokyo, mais au Louvre, plutôt que, je ne sais rien, au musée d'Orsay, on s'imaginerait plutôt d'avoir un autre type de rapport, et donc là, on revient au schéma de Shannon. Ah bah, on est...
Oui, moi je pense.
Non, mais je pense que parce que celui qui a théorisé en fait voilà le passage de l'information, mais voilà ce modèle-là, je pense qu'il sera d'actualité pour certains types de contenus et certains besoins usagers pour toujours.
Mais oui, disons que là, quand même la excusez-moi, je reviens toujours sur le point qui me semble important aussi, c'est comment on crée les conditions de cette expérimentation au sein des lieux, au sein des musées. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle de musées qui sont des musées français, enfin, des environnements françaises, on en parlait tout à l'heure, on est les premiers à avoir envie à partir de l'année prochaine, de faire beaucoup plus de choses avec l'international, parce que c'est très important. Mais comment est-ce qu'on peut. Je reviens à cette question, comment est-ce qu'on peut créer des conditions pour se tromper? Comment est-ce qu'on peut... Là, par exemple, Jean-Pascal, Nîmes Métropole, y a-t-il une dark room avec un truc capitonné où vous avez le droit d'aller faire les pires conneries Non, mais c'est une image.
Non, mais évidemment non.
C'est-à-dire, comment...
évidemment.
C'est une image. En fait,
c'est du white cube.
Voilà.
C'est
ça.
De manière symbolique ou ouais. réelle, non, il n'y a pas d'espace pour moi aujourd'hui à Nîmes où j'ai le droit de me tromper.
Ouais.
Et c'est ça qui est un petit peu particulier. C'est ouais. que si je dirais que le seul espace où j'ai le droit de me tromper, c'est sur les expos temporaires du musée archéologique. J'ai le droit de me tromper dans une certaine mesure,
parce que ça dure moins
exagéré. Hein. Parce que ça dure moins longtemps, parce que c'est moins sous le feu de la médiatisation, c'est moins sous le regard des élus, mais quand même, c'est des expos qui prennent de plus en plus un tour de préfiguration du musée. Donc évidemment, il n'y a pas question qu'il y ait un truc raté qui ne marche pas, donc on se plaint. Donc aujourd'hui, enfin là je parle juste de moi, moi je n'ai pas d'espace où j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de merdouiller un tout petit peu sur la marge, mais pas plus.
Il y a un espace où on peut se tromper, c'est dans les écoles, dans les universités. Enfin, on va revenir sur la recherche en l'occurrence. C'est que bah, même à Tsaldab, par exemple, la question de la recherche, parce que. Léna, tu évoquais, tu as raison, le design comment, notamment de services ou l'activité de design. Et il y a aussi la recherche en design et la recherche en art, où là, du coup, on se retrouve dans une situation à la fois protégée, parce qu'on a le droit de se tromper, parce que ça fait partie du cahier des charges, et en fait, ce n'est pas posé comme ça, en l'occurrence, mais on peut le prévoir de cette manière-là. Et pour le coup, ça veut dire que les acteurs, les institutions qui doivent être de manière de plus en plus présentes, ce ne sont pas forcément les boîtes de conseil en sociologie, puisqu'on évoquait ça tout à l'heure, ou autre, mais plutôt les laboratoires d'université, oui. les écoles.
Oui, oui.
Et là, il y a des lieux pour se tromper. Se tromper, c'est se faire explorer, et notamment faire de la recherche.
C'est un peu là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il me semble, ça c'est pas vraiment la peine du film, mais il me semble qu'il y a cette capacité dans des lieux qui sont les lieux de la recherche, à mettre en œuvre à la fois des dispositifs dont on n'attend pas une faisabilité, différence fondamentale avec mais sur lesquels on attend un travail réflexif sur
mais, un processus. Mais par la pratique et opérationnelle, ça n'empêche pas.
Oui. Ça n'empêche pas qu'il soit opérationnel.
Voilà, c'est ça.
Mais
avec une finalité de service.
Mais pas dans le sens d'une finalité de service. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Donc peut-être que là, il peut y avoir un croisement possible aussi pour ouvrir des poches, que ce soit des poches de recherche au sein desquelles on puisse délibérément mettre en œuvre des expériences limites qu'on ne pourrait pas faire dans un cadre de faisabilité de service.
Oui, de production. Alors, je modère un tout petit peu mon propos. Aujourd'hui, et là, c'est pas uniquement mon fait, cette question-là du prototypage, de la co-création avec les publics, de la recherche par l'erreur, etc., elle est quand même présente dans pas mal des têtes. Et pour prendre l'exemple de la ville de Nîmes, il y a, au niveau de la bibliothèque, au niveau d'un certain nombre d'acteurs, des équipements culturels qui sont un peu en recherche autour du numérique, les volontés de développer des actions de type Living Lab, etc., dans lesquelles je m'inscris à mon niveau pour essayer de faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, je dirais qu'à mon niveau, je n'ai pas d'espace où je peux me tromper, j'ai juste la possibilité d'inciter à créer ces espaces-là pour la communauté des gens qui se posent des questions autour de innovation numérique, société, culture, usage de demain, etc.
Donc peut-être ça peut croiser aussi ce que le numérique vous expliquait tout à l'heure à propos de l'INT de Zéanda, qui d'une certaine manière est un laboratoire de recherche. C'est un espace de recherche. C'est un espace qui a une visée.
Et de démo, c'est
de démo au
sens noble.
Pas de recherche, d'expérimentation et de vidéo.
Pour rebondir sur ce que vous avez dit tous, hein,
oui.
C'est vrai que je disais que les grandes institutions, c'était compliqué, mais c'est vrai qu'on a eu quelque chose de très luxueux grâce à Henri Moirette, qui n'est plus le président du Louvre, mais qui a vraiment poussé pour que le Louvre soit un lieu, on va dire, qui intègre la recherche, au sens large du terme, et aussi la recherche. On y voit les formes de médiation, mais nous, on a bénéficié de ce luxe avec une demande. Donc, juste pour reprendre un peu ce qu'on se disait, on a créé un comité numérique qui était lié en partie à Muséum Lab, mais qui était transversal. Donc c'était la première fois, grâce à cause de comme on veut, cette question du numérique, que toutes les directions du Louvre, département de conservation compris, se parlaient une fois par mois, résultat, ça ne s'est jamais arrivé. Donc là, on peut dire que le numérique a fait levier sur une conduite de mouvement. Le programme de Museum Lab qui a été transféré au projet du Louvre Lens et au projet que moi j'ai mené, je parle de ça parce que par rapport à cette question de la recherche et de créer un espace pour la recherche, ça a été initié aussi parce que Museum Lab a existé, c'est-à-dire que ça a été une culture qui s'est créée autour d'un espace. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça, c'était déporté, c'était pas au Louvre. Donc, quand on dit créer des espaces qui, je vais te dire, donc première solution, pas dans le musée.
Deuxième solution, bouger d'avion.
C'est un exemple qui a l'air extrême, mais qui a été extrêmement efficace. Et c'est parce que cet espace était effectivement apparemment absurde, c'est-à-dire très très loin, très très étranger, dans tous les sens du terme étranger, très très autre. Ouais. Qu'au fur et à mesure, il a fini par une porosité lente, certes, mais néanmoins active, atterrir dans les salles du musée, ce qui était totalement inenvisageable. Pour moi, j'ai créé le comité numérique au Louvre, c'était jamais ce dispositif dans mes collections, parce qu'un conservateur est souvent les collections. Il y a un public, mais ça, c'était une donc on partait de très très loin dans un musée qui par ailleurs était un musée très conservateur, si on continue à jouer sur le terme. Néanmoins, ça a été possible. Ça a complètement nourri le projet de Louvre Lens. Et dans le projet de Louvre Lens, et on pourra reparler un peu de ce qu'on a fait avec Yamla, moi, dans ce que j'ai porté, le centre de ressources, il portait la dimension recherche. Donc moi, je dirigeais la valorisation, ça s'appelle la valorisation de la recherche, mais toute recherche confondue, pas seulement sur des questions d'innovation technologique, mais la recherche en histoire de l'art, la recherche en sociologie des publics, la recherche sur les questions d'évaluation. Et donc, ça a été pas encore à la hauteur, mais je me suis resté qu'un an et demi, mais on a impulsé la chose, et c'est dans les programmes à venir, qui est des journées d'études de restitution sur des projets de recherche. Alors ça peut être des fouilles menées en Syrie, en l'occurrence en Syrie, en ce moment c'est plus possible, mais qui quand même sont publiées tous les ans au Louvre, mais très peu connues. Donc il y a une publication tous les ans, des actions de recherche, des actions de recherche, mais personne n'est au courant, je veux dire personne en dehors des initiés. Donc valoriser sa recherche pour les publics. Il y a une personne qui est en charge de ça au Louvre, il y avait une personne en l'occurrence moi qui était en charge de ça au Louvre Lens. Et donc créer des espaces, ça peut être un auditorium, ça peut être un temps de rencontre dans la médiathèque. Donc voilà, donc c'est des espaces, je parle de périphérie, on n'est pas dans les espaces d'exposition. Donc les espaces dont tu parles, ils sont aussi dans des lieux un petit peu périphériques, dans des lieux excentrés. On peut faire on peut rater avec des labos de recherche qui ont des espaces immersifs, c'est ce qu'on a fait avec Euratech à Lille. On peut un peu rater chez nous, mais d'autant plus qu'on n'est pas dans les espaces d'expo, sauf la prouesse du Muséomix, où on a, pas raté, mais au sens expérimenté,
sont
des prototypes. Il a fallu là aussi batailler pour que certains prototypes soient dans la galerie du temps. Ce qui paraissait évident à de nombreux muséomixeurs, mais qui n'était pas du tout évident en interne au musée.
Parce que moi, je pense qu'il faut expérimenter en contexte. Donc,
voilà, oui, mais...
Si c'est au Japon...
Oui, mais là, c'est une stratégie.
Si
on n'avait pas expérimenté au Japon, c'est pour ça que je parle d'absurdité. Oui, mais il faut voir à l'échelle d'une institution comme le Louvre. Ouais. Et ça a été ça aussi la rencontre avec les muséomixeurs.
C'est une question de stratégie.
On doit co-apprendre, c'est-à-dire apprenez aussi ce que c'est qu'une institution culturelle comme le Louvre. Donc moi, j'ai eu le mauvais
moment dans
trois jours. Étant moi-même quelqu'un qui dynamise les institutions, ça me faisait assez rire d'avoir le discours d'une institution. Mais néanmoins, pour que Muséomix soit possible, il a fallu négocier avec le responsable de la sécurité pendant 8 mois, à raison de X déjeuners et discussions. Mais si Rémi, c'est possible, on va pouvoir brancher des trucs partout, ça va être super. Avec les pompiers. Indépendamment du directeur qui était pour, c'est-à-dire qu'il faut mesurer ce que ça implique en termes de blocage, de simplement mettre des dispositifs non... C'est une représentation mentale. Il y a des tas de trucs dans la muséo qui sont dangereux, qui menacent les œuvres et qui ne sont pas forcément liés aux règles de conservation. Mais là, c'est l'idée de l'intrusion qui est complètement angoissante. Voilà, c'est un intrus au sens fort du terme. Mais si on ne comprend pas ça, on ne fait rien dans les institutions.
Mais le changement s'opère, en fait.
C'est ce que je dis. Il faut être tactique. Il faut être malin et il ne faut pas jouer contre.
En fait, ce qui est
en tout cas, pas de manière frontale.
C'est intéressant. Bah,
donc, Tokyo, ça paraissait aberrant, mais grâce à Tokyo, le Louvre a pu repérer des choses qui, proportionnellement à d'où il partait, sont relativement forte en peu d'années.
Ouais, donc,
mais il a fallu aller jusqu'à
ça.
C'est un symptôme. Aller à Tokyo pour faire ça, c'est vrai qu'a priori, moi j'ai passé un an et demi à dire quand est-ce qu'on réintègre, quand est-ce qu'on réintègre, quand est-ce que ça sert à des projets concrets, etc. Les arts de l'islam, les objets d'art.
Mais du coup, là, c'est ce qui s'est produit aussi du côté d'entreprise, puisque l'entreprise a voulu délocaliser, déporter, les deux termes ne sont pas bons, faut trouver un autre terme, déterritorialiser, comme ça, des activités, mais qui sont des activités comme un interne à l'entreprise ou au musée, qui partent et qui reviennent. Et c'est vrai que la déterritorialisation, elle est essentielle. Et il y a la question de la temporalité. Il y a la question spatiale, les contre-emplacements, les contre-espaces dont parlait Michel Foucault. On va m'accuser d'années 60. Mais Michel Foucault est actuel. Il est actuel dans son
livre. Je pense que c'est pas de côté aussi.
Complètement.
Tokyo, et c'est quand même depuis 2010 qu'on réinstalle dans les salles. Donc voilà, ça peut sembler assez modeste, mais on est dans des lieux qui sont classés avec des contraintes très fortes, des agents de surveillance, de conservateurs, etc. Là, on fait justement une évaluation sur l'ensemble des dispositifs Museum Lab qui ont été réinstallés dans les salles du musée. Pour l'instant, les retours sont très positifs. Ce qu'on voit par contre, ce qui est très frappant, c'est l'importance de l'implantation muséographique, justement. On parlait de la place du muséographe. Finalement, dans les emplacements, parfois on a dû mettre là où on pouvait, entre guillemets. Ça marche moins bien, ça on le savait, mais enfin, en tout cas là maintenant, on a des données. En tout cas, on n'est pas au bout de ça, de cette question de l'implantation de ces dispositifs dans les salles. Moi, j'admire beaucoup les démarches de Muséolib, je trouve ça très frais, très puissant aussi comme forme, comme méthodologie de pouvoir investir un lieu. C'est vrai que nous, on a une réalité du terrain et on a fait toutes ces années un peu la politique des petits pas pour vraiment réussir à intégrer ces médiations numériques qui n'étaient vraiment pas du tout évident. Ce qui est très chouette aujourd'hui, c'est que maintenant, on a beaucoup de demandes. On a dû un peu convaincre, un peu expliquer pourquoi on faisait ça. Maintenant, on a beaucoup de demandes qui émergent de différents services. Donc, la preuve que ça il y a un usage interne aussi de ces propositions.
Et puis c'est une éducation dans le temps, les uns les autres, c'est-à-dire par exemple Muséolix à Lens, ça a déjà produit en termes de porosité et de conviction des effets qui sont durables et qui sont profonds. Il y a eu un relais par ailleurs, comme on l'a dit, avec l'association, etc. Mais en interne, les gens ont trouvé ça génial.
Et ça, on a du mal à mesurer.
Je parle des personnels du musée, et pas les personnels du musée qui sont les cultureux du musée. Les personnels du musée, on n'associe pas suffisamment
les médiateurs,
les agents, les administratifs,
les juristes,
les gens de l'accueil. Non, mais
les juristes.
Les administratifs. Et on a un musée absurde où, en gros, on a sorti les gens du musée. On avait de la place, on avait 22 hectares, on aurait pu faire en sorte qu'on travaille dans le musée. Et là, il y a 500 mètres, 400 mètres, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Donc il y a des gens qui ne vont pas au musée. C'était déjà le cas du Louvre avec les différentes implantations contraintes par les locaux, peu importe. Mais c'est important de dire que tiens, les gens, ils ne mettent pas les pieds au musée pendant une semaine. Donc, voir que eux aussi, c'était un renouveau de leur vision d'un musée dans lequel finalement ils ne sont pas si intégrés que ça. Et le fait que ce soit possible, c'est plutôt eux qui vont pousser, peut-être plus que le service conservation ou des médiateurs plus habitués. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est à partir de là aussi. Que ces petites révolutions qui peuvent paraître modestes et qui nécessitent des cheminements parfois ingrats ou des ruses de Sioux, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment déplacer les lignes avec ce type de travail. Et ce qu'on a fait avec ABLA et les chercheurs, c'est exactement ce qu'il faut mettre en place dans l'institution.
Ça pose la question de l'évaluation, c'est-à-dire de la visibilité. Très souvent, en fait, les vrais effets sont sur du long terme. De manière, la porosité, pour ça, une bonne image, et on peut difficilement le voir, parce que quand on le voit, quand on a des preuves, on peut dire après, auprès des responsables, vous voyez bien que ça fonctionne. Parce que souvent on dit, mais est-ce que ça a fonctionné pas? On dit, oui, c'était sympa, bonne image, etc.
C'était qu'un événement.
Mais voilà, mais comment ça a pris corps dans les esprits? Ils se posent même pas la question d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de preuve tangible.
Alors je vous propose une courte pause. Et qu'ensuite on parle un petit moment de la question d'évaluation, très rapidement, peut-être.
Ouais.
Non,
présenté comme ça, ça n'en serait pas l'enthousiasme, mais l'évaluation, voilà.
Et puis après, il
y avait une question intéressante qui était soulevée là, dans votre discussion entre justement bah, le fait de dire les écoles d'art peuvent être justement un acteur aussi, mais aussi détérioré. Je ne vais pas y arriver.
Je me suis entraîné tout à l'heure.
Le déplacement.
Je trouve qu'il y a un truc intéressant entre le Muséum d'Art de Tokyo, les écoles d'art, et à chaque fois les acteurs, entre guillemets, externes,
même
s'ils sont quelque part un peu internes pour le Muséum d'Art de Tokyo, il y a cette porosité aussi des acteurs qui peut faciliter l'expérimentation aussi.
Oui.
Le fait de se croiser, voilà,
oui, parce que
et la transdisciplinarité, ça,
aussi parce que
important presque avant l'évaluation, avant de passer à la question de l'évaluation, de dire qu'est-ce qui est important pour créer justement ces conditions d'expérimentation.
On pourrait peut-être parler de valorisation, alors les termes aussi un peu à la mode.
Oui, parce qu'en tout cas, là, on se rend bien compte que dans les exemples que tu as été cités, le fait d'être dehors est stratégique.
Oui.
Mais fondamentalement stratégique, parce qu'il permet, mais c'est aussi...
Là, ça a été la réalité, mais on peut... moi, j'ai l'impression que c'est comme ce qu'on disait ce matin, les conditions de la participation. Jusqu'où on va pour contrôler un dispositif qui permet aux personnes de sortir du contrôle.
Attends, pardon, j'ai pas fini.
Excuse-moi.
Ouais, ce que je veux dire, c'est que vous aussi, vous êtes dehors. C'est-à-dire,
vous êtes dehors. Oui, voilà, c'est dehors.
Dehors, on est avec.
Bah, c'est quand même une structure qui
vient
dehors.
C'est
quand même une structure qui vient dehors. C'est pas une structure qui est initiée par
le musée.
C'est quand même une structure qui vient à l'extérieur.
Non, mais c'est intéressant de voir. On n'est pas obligé d'arriver au consensus.
Je n'ai pas dit ça.
Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans toutes ces questions, c'est toujours une question de tension. On ne s'en sort pas, comme ce matin, et que là aussi. Je pense qu'on pourrait même avoir ce qui est le cas là où je travaille. Il y a une cantine numérique et en fait, c'est un bocal. Et les gens se regardent, mais il n'y a aucun... Il n'y a pas d'hybridation du tout. Non, mais dans les deux sens, autant notre responsabilité à nous de ne pas rentrer dans le bocal. Il
faut expliquer ce que c'est que la cantine, parce que tout le monde ne connaît pas. C'est un espace de coworking.
À Rennes, au Champ Libre, en fait. Le Champ Libre, c'est le grand bâtiment culturel qui a été construit par Forza Park à côté de la gare.
Donc ça peut être à l'intérieur, mais sans forcément s'intégrer. Je pense que c'est vraiment une histoire de dynamique et de frottement. Et tant qu'il y en a, je pense que c'est plutôt dans ce sujet.
Alors, parlons plutôt peut-être, on n'est pas obligé de parler de dehors, on peut parler de frottement, on peut parler de tribologie.
Mais c'est ça que j'allais dire. Peut-être que la notion de dehors est ancienne. Et qu'on est plutôt dans une logique, là je vais ouvrir, c'est une porte ouverte, mais en France aussi, dans une logique de réseau, où si on raisonne, finalement, si on raisonne même en termes de service public, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un établissement public juridiquement, légal, légalement, c'est lui qui dispose des droits pour transmettre un certain nombre de choses. Il y a des nouveaux acteurs qui viennent, y compris privés ou semi-publics, et ça ouvre complètement l'établissement public et ça le transforme en réseau. Du coup, la notion de dehors devient peut-être un peu caduque.
Oui, oui.
Par contre, vous êtes un acteur, un nœud du réseau particulier quand même. Et vous ne venez pas du réseau justement plutôt institutionnel classique. Peut-être, c'est ça.
Mais en l'occurrence, on parle tous presque deux langues. C'est-à-dire que nous, on est convaincus, entre guillemets, par ces porosités.
Oui.
On est convaincus qu'éventuellement, dedans-dehors, c'est obsolète. On est convaincu qu'il faut se frictionner, si on peut dire, et aller et venir, mais que les frictions sont bénéfiques. Mais par contre, dans les institutions où les uns les autres, peut-être, nous travaillons, il y a un autre langage spatialement encore très délimité, avec des frontières, avec des seuils à franchir, etc. Et donc c'est pour ça que parfois, peut-être, on parle de langue et qu'on réagit à peut-être la langue des autres, mais qui sont quand même ceux avec qui on travaille, et parfois ceux à qui on s'adresse, quand on parle des publics aussi qui ont parfois besoin de choses assez classiques, de notre point de vue, mais est-ce que c'est si classique que ça, qu'est-ce que ça veut dire aussi tout ça. Et par ailleurs, sur ces questions de frontières, le centre de ressources, en l'occurrence, est un espace vitré, ouvert sur ce... dans l'esprit et concrètement, et on n'a pas arrêté de m'expliquer dans le musée que c'était le village gaulois du Louvre-Lens. Alors que je passais mon temps à dire, mais envahissez-nous, autant les professionnels, les gens en interne, que les experts.
Qui disait ça, non ?
La direction
où
mes collègues des différents services avaient tendance à percevoir ce lieu tout en l'aimant beaucoup.
Comme un bastion.
Comme un bastion. Alors que, bon, bah, c'est notre temps, notamment avec le service des services, mais ce lieu n'est pas. au service des publics, c'est encore une autre histoire, peu importe. Non, mais c'est quand même intéressant, c'est parce que c'est ça le quotidien. Ok, on est tout ça en train de se dire génial, on va interagir à fond et il n'y a plus de limites et on se parle, on est en transdisciplinarité en réseau. Néanmoins, la réalité, elle est là. Elle est dans des démarches de circulation qui sont aussi des tensions dans le bon sens du terme, mais des volontés, des convictions. Mais il y a aussi, on recrée des frontières quand certains veulent les abolir, c'est angoissant. Et donc à partir de là, il y a vraiment ce type de fonctionnement. Et c'est troublant en termes de réactivité, on va dire, par rapport à cette dilution.
C'est pour ça que moi je parlais de dehors aussi, c'est que je suis désolé, parce que même par rapport au centre d'art contemporain ou par rapport à l'idée comme ça, la notion de dehors elle est super présente. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de lieux culturels, il n'y a pas que les musées, il y a une infinité de lieux culturels qui se perçoivent comme un espace, et donc avec cet espace aussi comme une culture, et vis-à-vis desquels. Des nombreuses stratégies peuvent être proposées pour proposer de l'innovation, proposer de l'intégration, proposer des relations beaucoup plus fines, etc. Et effectivement, vous avez dit que ça fait partie, il y en a d'autres. Mais ce sont des propositions qui, vu des institutions, tu parlais de Foucault tout à l'heure, on est un peu dedans. C'est-à-dire que, vu de ces institutions, il existe un dehors.
Oui.
Et c'est pas réservé au musée. Je veux dire, va voir les trois quarts des centres d'art contemporain avec lesquels tu peux travailler. Et là, tu vas voir que la notion de dehors elle existe bien. Elle n'est pas du tout obsolète.
De délimitation, de frontières.
Absolument. Et de légitimité du discours, etc. Donc c'est d'autant plus important, justement, quand on dit quels sont les lieux possibles de l'expérimentation, quels sont les espaces-temps possibles de l'expérimentation. On se rend compte que c'est pas seulement espace-temps. Mais c'est comme on disait au début, espace-temps, organisation, enfin, ça rejoint ce que tu disais Samuel, sur l'idée de vraiment réfléchir à des processus qui permettent l'invention, mais qui se proposent quand même de dehors par rapport à ces lieux-là.
Et puis c'est vrai côté entreprise aussi, parce que là c'est.
Oui, là on parle du budget. Mais
côté entreprise aussi, même si ça bouge actuellement et. Même si on parle de l'innovation et qu'on essaie d'y aller, il y a encore un frein culturel qui est énorme. Donc c'est valable dans les deux sens. Et aussi, côté entreprise, on va légitimer notre discours et acculturer les gens sur la vie. Ça peut être bénéfique pour nos chercheurs de tester de nouveaux dispositifs dans les musées.
Mais ça, c'est envoyé comme message, non pas aux chercheurs eux-mêmes qui comprennent bien, mais plutôt au management.
Oui.
C'est ça aussi, c'est-à-dire les chercheurs en tant que tels, enfin moi je ne vais pas défendre tous les chercheurs en l'occurrence, mais la plupart des chercheurs, eux, ils le font depuis longtemps.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont dans des réseaux de recherche, ils ont des laboratoires, il y a des partenariats avec des universités, etc. Et c'est la manière dont le management de l'innovation est mis en place qu'il y a une méconnaissance en fait de ces ouvertures qui existent déjà. Et en termes d'évolution aujourd'hui, s'il y a un milieu clos par excellence, c'est la prison. Et en l'occurrence, les murs sont en train de s'ouvrir, mais avec les bracelets électroniques, par exemple, depuis ma peine d'année. Bon, c'est un peu longtemps en cours d'actualisation aujourd'hui. Donc l'ouverture des milieux clos, c'est pas forcément pour le meilleur. Donc ça, c'est facile.
Oui.
L'émergence des musées est quand même beaucoup. Beaucoup de temps. Au milieu clos, du fond au sac.
Je propose une pause avant que quelqu'un ne parle de prison mix.
C'est prison mix.
Il y a beaucoup de choses à faire. Il est 15h48.
Donc à 16h, on est là.
À 16h, on revient.